carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Entre 1751 et 1772 est rédigée l'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cette encyclopédie a été réputée pour avoir été écrite par Diderot et d'Alembert, mais en fait, elle a été rédigée par une multitude de spécialistes allant de Voltaire, Montesquieu, Marmontel, Buffon, à Turgot et Rousseau. En tout, 140 auteurs et 72 000 articles, et donc parmi ces auteurs, Jean d'Alembert, qui était membre de l'Académie française. L'encyclopédie a été une œuvre de référence pour les arts et la science au service de la philosophie des Lumières. En 1981, un compositeur italien, Giorgio Battistelli, décide de s'emparer de cette encyclopédie et d'en faire le livret d'un opéra, Experimentum Mundi. Experimentum Mundi est présenté à la Cité de la Musique à Paris le 16 novembre 2007. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel André, directeur de la production. Emmanuel André, cet opéra a déjà été présenté plus de 200 fois dans le monde. Qu'est-ce qui fait que l'on choisit un tel opéra ?
Pour nous, c'est une chance et presque un devoir de présenter cette œuvre. Vous parlez d'opéra, mais quand même une œuvre très atypique. Un opéra, on pense à des chanteurs, on pense à un orchestre, on pense à un chef et des décors. On a bien un peu tout ce genre d'ingrédients dans cette œuvre, mais revisité d'une manière totalement différente. On a bien un chef d'orchestre, ce sera le compositeur lui-même, Giorgio Battistelli, qui sera à la baguette avec un pupitre, donc jusque-là tout va bien. Point d'orchestre, puisque vous n'aurez que des artisans, des menuisiers, ferronniers, tonneliers, etc. La liste est longue, ils sont 16 corps de métier qui constituent d'une certaine manière les instruments de cette production. Et puis de chanteurs, point non plus, à part un chœur de femmes, mais qui se contentent de réciter, avec un rythme musical certes, mais d'égrener des mots dans une pagaille organisée, des sortes de litanies, un petit peu d'ailleurs en référence, je pense, aux articles de l'encyclopédie qui s'égrènent d'une manière presque infinie, comme un petit fleuve tranquille. Et puis le soliste de l'affaire, c'est le récitant.
Et les percussions qui viennent compléter les artisans, et qui les artisans ne seraient rien sans ce percussionniste.
Alors oui, avec les percussions, on a un peu le chaînon manquant, le maillon qui permet de rattacher l'artisan au monde de la musique. A priori, un artisan n'est pas un musicien, et un musicien n'a pas grand-chose à voir avec un artisan, il se considère plutôt comme un artiste. Mais la percussion, puisque c'est un instrument bruit, sans, pour la plupart d'entre eux, sans de hauteur définie, on se trouve vraiment exactement dans le corps instrumental qui permet de lier les deux univers. Et Battistelli les utilise d'une manière absolument régalante. Il musicalise d'une certaine manière en les soutenant très discrètement, quelquefois, par une deuxième chorégraphie du geste qui vient dans un deuxième degré, les bruits que produisent chaque métier. Quand vous avez donc un boulanger qui prépare une pâte, qui casse ses œufs, qui va les battre, qui va ensuite les pétrir, ça fait une musique. Et c'est cette musique, je crois, qui a fasciné Battistelli parce qu'elle a baigné son enfance. C'est la musique de son village, Albano Laziale, à 25 km de Rome. C'est cette musique qu'il a voulu, d'une certaine manière, mettre en scène, sur la scène que nous allons découvrir à la Cité de la Musique.
Donc très difficile de classer cette œuvre qui est ni tout à fait un opéra, qui sont plutôt des formes rythmiques. Comment vous classeriez cette œuvre ?
Alors toute la production de Battistelli a été classée sous le vocable de théâtre musical. C'était bien pratique quand on voulait dire que la langue avait une valeur musicale, avait incarné un rythme, des mélodies, des hauteurs, etc. et qu'on pouvait, à partir de ce matériau, faire de la musique. Donc on musicalisait en exploitant au maximum la part musicale que recelait la langue. Mais ça joue vraiment dans les deux sens. La musique inspire autant la langue que la langue inspire la musique.
Et d'ailleurs, le texte du récitant forme également un rythme qui vient compléter le rythme des percussions et des artisans.
Le texte du récitant est strictement une lecture par extrait de l'encyclopédie. Par extrait, hein, je vous rassure, ça ne dure pas si longtemps que ça. Et donc, on a vraiment un regard porté par les encyclopédistes, donc par des savants, par presque des observateurs de la vie humaine, et les artisans observés par les encyclopédistes, et nous avons constamment un va-et-vient entre ces deux visions.
D'ailleurs, on pourrait s'étonner de cette adéquation un peu étrange entre une musique du XXe siècle et des textes du XVIIIe siècle. Et en fait, cet anachronisme ne se pose pas. On a vraiment l'impression d'avoir une œuvre en tant que telle.
C'est vrai que l'ensemble crée une harmonie qui, je crois, rend hommage à l'harmonie qu'incarnait l'encyclopédie. On a l'impression, quand on lit les articles de l'encyclopédie, quand on voit classer, ordonner, répertorier tous les aspects de la vie humaine, qu'il y a une vraie harmonie entre l'homme, la nature et ses outils qui maîtrisent la nature, qui l'ordonnent, qui est d'ailleurs une vision ô combien française. Par contre, quand vous parliez tout à l'heure de modernité, je crois qu'il y a une question là essentielle. Est-ce que l'encyclopédie et cette vision est en accord avec notre époque ? Ça, je suis pas du tout la personne la mieux placée pour en parler, les académiciens ou les tous les penseurs qui se sentent héritiers de cette manière de penser doivent certainement répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Mais je crois que, pour ma part, je sens vraiment une sorte de perte de crédit aujourd'hui dans cette logique d'ordonnancement, de classement, de vision idéale et ontologique des choses, comme si on pouvait décrire et classer le monde, cette vision positiviste des choses, cette vision globalisante des choses. On est, je pense, aujourd'hui beaucoup plus fasciné par le désordre, par les dérèglements, qu'ils soient ceux des passions, ceux des moyens de communication, etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose de plus attirant dans ces choses qui nous échappent. Mais néanmoins, je crois que l'idée de savoir ne peut se nourrir que d'ordre. Et c'est bien la question. C'est-à-dire, même si on est fasciné affectivement par le désordre, dès que vous voulez le conceptualiser ou le nourrir par une pensée forte, vous êtes forcé de passer par l'ordre.
Est-ce que vous savez comment s'est faite la transcription sur partition et est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans tout cela ?
D'improvisation, je ne pense pas beaucoup. Alors ça, je ne peux pas le certifier, je n'ai pas vu la partition de chacun, mais ce que j'ai entendu était très bien dirigé par Battistelli et les gestes sont sans équivoque, le chef donne ses instructions par le geste aux différents interprètes. Je ne les appelle pas des musiciens, mais plutôt des interprètes vocaux ou bruitistes.
Venons-en justement du concept aux aspects concrets des choses. Comment est-ce que la réalisation se fait d'un tel opéra de théâtre musical ? Est-ce que ce sont des vrais artisans déjà ? Et est-ce qu'ils ont été formés au rythme ?
Battistelli a invité les artisans de son village d'enfance. Il est né à Albano Laziale, il a invité les artisans de son village. Alors, c'est évident que ça a été le cas en 1981, lorsqu'il a écrit l'œuvre, et ça n'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que certains ne sont plus là, certains sont devenus trop vieux. Donc on a renouvelé les artisans invités, mais globalement on a conservé exactement ce concept-là. Ce ne sont bien sûr pas des musiciens, sauf que Battistelli a pris exactement la part musicale du geste de l'artisan de manière à le faire entrer en communication avec le monde musical, celui de la percussion qu'on évoquait tout à l'heure, ou des femmes qui, elles non plus n'étant pas musicales, mais sont, je pense, en parlant chantant, plus dans ce bain musical. Imaginez donc un savetier qui tape avec un marteau sur une chaussure, une semelle. Ce n'est pas de la musique, mais il y a un rythme, il y a une régularité, il y a un ostinato qui fait que si on demande à l'artisan d'analyser musicalement son propre bruit, je crois qu'il comprend tout à fait. C'est cette petite musique, il rentre, d'ailleurs c'est le cas de chacun, vous rentrez dans une pièce, dans votre bureau, dans un univers quotidien, vous avez le charme de cet environnement sonore, vous avez cette petite musique qui résonne en vous, qui vous environne, ça c'est absolument réel. Vous changez un élément à cette petite musique et vous êtes presque perdu dans votre quotidien. Alors c'est vraiment ce qui nous a fascinés à la Cité de la Musique pour ouvrir emblématiquement un cycle de concerts qui va durer une semaine, qu'on a intitulé « Rituel du quotidien ». C'est bien cette question-là. Comment est-ce que le bruit où la musique peut s'insérer dans notre quotidien et le ritualiser, lui donner un sens et, par le phénomène de répétition, sacraliser ce quotidien. Ce quotidien, parce qu'il est répété, parce qu'il s'ancre en nous, parce que nous en sommes imprégnés, va faire partie d'une forme de dimension un peu spirituelle, qui n'est pas religieuse, mais qui est notre petit panthéon intime et intérieur.